Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Mesdames et messieurs, nous avons vu comment, à partir de l'Irak, cœur du califat abbasside qui lui avait donné naissance à la fin du IXe siècle, le système mamelouk, appelons-le comme ça, est imité dans les siècles suivants par les diverses dynasties musulmanes, iraniennes ou turques, qui s'approprient successivement les dépouilles de l'empire abbasside. En vertu de ce système, tous ces souverains, petits ou grands, disposent de troupes d'esclaves qui ne représentent pas toutes leurs forces armées, mais qui en constituent généralement le noyau et qui fournissent, également au souverain sa garde personnelle et une troupe de parade dans les cérémonies. Autant que par la condition servile de ces éléments, le système se caractérise par un cursus réglementé de formation militaire qui prend l'individu dans son jeune âge pour le modeler systématiquement durant de longues années. Ce second aspect du système pourrait bien avoir été emprunté par les Abbassides à des précédents d'Iran oriental et d'Asie centrale. Cela pourrait avoir joué un rôle dans le succès ultérieur du procédé dans ces régions orientales du monde musulman. Nous avons noté en effet un développement particulier du système mamelouk sous les dynasties samanides et ghaznévides du Khorasan, d'Afghanistan et de Transoxiane. De même que chez les Seldjoukides, qui, venus d'Asie centrale, s'implantent en Irak et en Iran, mettant un temps le califat abbasside très affaibli sous leur coupe. Enfin, une branche de ces Seldjoukides s'établit aussi en Anatolie, en Asie mineure, dans l'actuelle Turquie, favorisant la turquification, si vous me passez ce néologisme, d'une bonne partie de la péninsule anatolienne. Ce sont les Seldjoukides qu'on appelle de Roum ou de Konya, qui sont les prédécesseurs immédiats des Ottomans et qui, comme nous l'avons vu, ont eux aussi leur corps de mamelouk, appelé plus couramment, dans leur cas, goulam, un terme synonyme de mamelouk qui désigne un jeune esclave mâle. Enfin, j'ai terminé ce survol des zones orientales du monde musulman en soulignant que le système des goulams, appelons-le comme ça, y réapparaît après une éclipse due aux invasions mongoles et qu'il se perpétue en Iran à l'époque moderne, à partir du XVIe siècle, sous la dynastie des Safavides, non seulement par tradition, mais sans doute aussi plus directement à cette époque, au XVIe, au XVIIe siècle, sous l'exemple de ce qui était apparu entre-temps chez les voisins et les grands rivaux des Safavides, c'est-à-dire les Ottomans. À la fin du XVIIe siècle, le célèbre voyageur Jean Chardin, dans son journal de voyage en Perse et aux Indes orientales, estimera à 10 000 les goulams de l'armée safavide. Un peu avant, un autre voyageur bien connu, Jean-Baptiste Tavernier, avait cité un chiffre encore plus élevé, le chiffre de 18 000. À côté de l'armée, une partie substantielle de ces goulams était employée au service de la cour et de la haute administration. Enfin, la dynastie qui régnera sur l'Iran après les Safavides, les Qadjars, qui régneront de 1779 à 1923, auront eux aussi une garde de goulams. Ce survol des parties orientales de l'Empire musulman ne doit pas laisser ignorer que le modèle du corps d'esclaves, né, encore une fois, dans l'Irak abbasside, s'est également diffusé rapidement et s'est établi durablement dans des parties du monde musulman autres que l'Iran et l'Asie centrale. C'est ainsi qu'en Égypte, ce système apparaît pour la première fois sous le règne d'un dissident des Abbassides, Ahmad ibn Tulun, qui règne de 868 à 884 et qui, outre l'Égypte, imposera également son autorité à la Syrie. Eh bien, ce personnage, Ahmad ibn Tulun, était lui-même le fils d'un esclave acheté à Boukhara sous au temps du calife Al-Mamoun, un esclave turc, mais d'un peuple turc que, je crois, je n'ai pas encore eu l'occasion de citer, les Turcs Ouïghours. Toutefois, ce père d'Ibn Tulun n'était probablement pas un mamelouk stricto sensu, dans la mesure où il y a des raisons de penser que lorsqu'il avait été acheté comme esclave, c'était déjà un adulte et déjà quelqu'un de rompu au métier militaire. Eh bien, on rapporte que l'armée d'Ahmad ibn Tulun, une fois donc qu'il a établi sa domination sur l'Égypte puis sur la Syrie, comportait 24 000 esclaves turcs et 40 000 esclaves noirs à côté de soldats de condition libre en quantité moindre. De même encore, les souverains chiites fatimides qui régneront eux aussi sur l'Égypte emploieront à leur tour dans leur palais du Caire de hauts dignitaires et une garde personnelle faite d'esclaves et même pour une part d'eunuques. Il y avait parmi ces esclaves des Fatimides des esclaves noirs, originaires pour la plupart du Soudan, et des esclaves blancs qui, cette fois, n'étaient plus des Turcs, mais des Slaves des Balkans, des Grecs, désignés par le terme de Roumi, et des Arméniens. Nous reviendrons dans un instant à l'Égypte, puisque c'est là qu'apparaîtra, à partir du milieu du XIIIe siècle, non plus seulement une garde mamelouk comme ailleurs, mais un régime entièrement mamelouk, sultan compris, et qui, de surcroît, ce qui est important pour notre propos, va coexister un temps, ce régime mamelouk, avec le régime ottoman, qui est, comme vous l'avez compris, l'objet véritable de notre enquête et auquel nous allons finir par aboutir sous peu. Mais terminons avant cela notre panorama de la diffusion des gardes serviles dans l'ensemble du monde musulman en regardant à présent du côté de l'Ouest. Au Maghreb, des milices serviles sont également attestées, mais il semble qu'elles jouent un rôle moins important qu'à l'Est, qu'en Orient. Elles sont à base de berbères, de noirs, et également de captifs chrétiens originaires de l'Europe du Nord et capturés en Méditerranée. Enfin, l'Espagne musulmane, nous n'avons pas encore parlé de l'Espagne musulmane, celle des califes omeyyades de Cordoue, comprend elle aussi des éléments d'origine servile qui apparaissent aussi bien dans l'armée des califes omeyyades que dans les services de leur palais. Cette fois, ce sont des Européens qui sont désignés dans les sources par un terme qui a donné lieu à des discussions entre historiens, le terme de saklabi. Plus précisément, il s'agit d'esclaves affranchis qu'on désigne par les termes de Feta, pluriel fitian, ce qui signifie jeune garçon, jeune page, ou encore par le terme synonyme de Gilman. Certains de ces affranchis des califes omeyyades, un peu à la manière des atabais de l'empire seldjoukide dont j'ai parlé précédemment, fonderont à leur tour de petites dynasties à la disparition de l'État omeyyade d'Espagne. Ce sont ces Moulouk al-Tawaif, caractéristiques de l'Espagne musulmane, ce qu'on appelle les taifas en espagnol, ces petits royaumes qui précèdent l'avènement de la dynastie almoravide en Espagne. Lorsqu'il visite Al-Andalus, cette Espagne musulmane, le géographe Ibn Okal, au Xe siècle, constate que les Sakalibas de Cordoue comprennent des captifs de diverses parties de l'Europe orientale et méridionale, et il énumère les différentes origines de ces captifs européens, les côtes de la mer Noire, la Lombardie, la Calabre, la Catalogne et la Galice. Sans doute avait-il été capturé dans les combats sur les marches catholiques de l'Espagne ou bien enlevé par des pirates musulmans. Ce survol, même rapide, et qui vous a peut-être semblé compliqué par l'avalanche de noms propres que j'ai été amené à citer, et auquel il conviendrait d'ailleurs d'ajouter l'Inde musulmane, dont je n'ai pas parlé, enfin je ne veux pas trop prolonger mon énumération, ce survol avait pour objet de montrer la généralisation de l'esclavage militaire dans le monde musulman médiéval. Il est vrai, cependant, qu'au-delà de mentions plus ou moins précises de l'emploi de goulam par les souverains respectifs, quelquefois il s'agit de simples allusions, la documentation disponible ne permet pas le plus souvent de déterminer l'âge auquel on a acquis ces esclaves et les conditions dans lesquelles ils ont été formés. Et par conséquent, on ne peut pas être toujours sûr qu'on a affaire à un système mamelouk stricto sensu. Dans le cas, en revanche, du régime mamelouk d'Égypte, auquel j'en viens, d'Égypte et de Syrie, des sources relativement riches et précises ne laissent aucun doute à ce sujet, ne laissent aucun doute sur l'application du paradigme mamelouk stricto sensu. Arrêtons-nous donc un moment sur cette expression emblématique du phénomène. Le sultanat mamelouk, je le rappelle, qui dominera l'Égypte de 1250 à 1517 et la Syrie de 1260 à 1516, pour être remplacé dans ces deux pays à la suite des conquêtes du sultan Selim Ier par la domination ottomane, ce sultanat mamelouk représente une forme extrême, je le répète, du système mamelouk. Il est en effet instauré par la prise de pouvoir en Égypte à la mort du souverain Ayyoubid al-Malik al-Sali, des esclaves turcs et plus précisément Kıpçak, un des peuples turcs des steppes du nord de la Caspienne et de la mer Noire que j'ai eu l'occasion de citer, eh bien, ces esclaves turcs, Kıpçak, acquis en masse par ce dernier souverain Ayyoubid, et grâce auquel, d'ailleurs, il avait pu vaincre et capturer Saint-Louis à la tête de ses croisés en 1249, ces esclaves que Kıpçak établissent leur autorité. Ce régime qu'ils instaurent, régime mamelouk, s'illustrera non seulement par ses victoires sur les croisés, mais également en stoppant l'expansion mongole et en sauvant ainsi le Dar al-Islam, le monde musulman, de la submersion totale par les Mongols. Les Mamelouks ne sont plus seulement le bras armé du souverain. Comme dans les cas que j'ai cités précédemment, ils constituent, tout en restant d'origine servile, une sorte de caste militaire qui impose sa dictature au pays et qui choisit le sultan en son sein. Dans une première période, qui va de 1250 à 1390, les sultans sont à l'origine des esclaves turcs issus des steppes du nord de la mer Noire et du nord de la Caspienne. Ce sont des Kubtchaks, dont j'ai déjà cité le nom. Eh bien, cette première lignée de sultans mamelouks Kubtchaks, on l'appelle la lignée Bari ou Bariya. Dans une seconde époque, les esclaves auront une autre origine. Ce seront désormais des Tcherkès, ou comme on disait anciennement en francisant leur nom, des Circassiens, c'est-à-dire qu'ils sont issus d'un peuple non islamisé qui, pour sa part, est établi dans le piémont nord du Caucase. Cette seconde lignée de sultans mamelouks, c'est la lignée circassienne, appelée encore Bourjia. Fondée sur de telles bases, a priori peu rassurantes, les Mamelouks réussiront néanmoins à gouverner l'Égypte avec une administration relativement régulière et ils seront à l'origine de réalisations remarquables dans différents domaines, en particulier dans l'architecture. Ceux qui ont visité le Caire, notamment, en savent quelque chose, et dans d'autres formes d'art. Je ne vais pas, bien entendu, traiter ici de l'histoire mamelouk en général, mais il m'a semblé utile de donner un aperçu des modes d'acquisition et de formation des esclaves militaires chez ses prédécesseurs et qui seront ensuite un temps ses contemporains des Ottomans. Nous sommes fortement aidés dans cette tâche par les travaux devenus classiques d'un historien que j'ai déjà cité au début, David Ayalon, et ses successeurs, notamment Hassanein Rabi du Caire, et nous sommes également aidés par les travaux de notre collègue d'Aix-en-Provence, Jean-Claude Garcin. Seuls suivront parmi les esclaves mamelouks le cursus officiel d'éducation et accéderont à la catégorie supérieure des Mamelouks, promis aux plus hautes fonctions, voire au sultanat lui-même, comme je l'ai dit, eh bien, seuls bénéficient de ce régime privilégié les Mamelouks achetés et ensuite, comme nous allons le voir, affranchis par le sultan lui-même. Ce sont les esclaves dits royaux, al-Mamalik à Soutania. Ce sont eux qui nous intéressent le plus dans notre enquête généalogique sur les esclaves du sultan ottoman. Mais je dois tout de même préciser que ces esclaves royaux ne sont pas les seuls esclaves militaires dans l'Égypte et la Syrie mamelouk. Les différents officiers de l'armée mamelouk, ceux qu'on appelle les émirs, avaient leur propre mamelouk qu'ils devaient présenter au sultan pour le départ au combat en nombre variable. On parlait ainsi d'émirs de 5, de 10, de 20, de 40 ou de 100, selon le nombre de mamelouks qu'il devait conduire au combat. L'un de ces émirs parvenait à la tête de l'État et exerçait dès lors le pouvoir sultanien. Il était entouré d'une maison militaire sultanienne composée de l'ensemble de ses propres mamelouks royaux. Or, nous savons, dans le cas d'un de ces sultans mamelouks, Kalaoun, qui règne de 1280 à 1290, qu'il possédait 6 à 7 000 mamelouks royaux. Acquis à un jeune âge, l'esclave royal va recevoir sa formation dans des casernes tabaka, ce qui donne au pluriel tibak ou adbak. Ces casernes étant établies dans la citadelle du Caire. Les informations les plus développées sur la vie dans les tibaks, dans ces casernes, proviennent d'un chapitre de l'ouvrage intitulé Al-Kitat de Makrizi. Mais c'est un auteur ultérieur, qui s'appelle Al-Zahiri, qui donne une indication sur le nombre de tibaks, en tout cas pour le XVe siècle. Selon lui, il y en avait 12, et chacune était capable de loger 1000 mamelouks. Il y avait dans chacune de ces tabakas au moins un faqih, c'est-à-dire un maître religieux, chargé d'initier ces jeunes païens convertis à l'islam à la nouvelle religion qu'on leur avait fait adopter. Le faqih leur enseignait ainsi le Coran, l'écriture arabe, les préceptes de la charia et les prières musulmanes. Quant à l'éducation proprement militaire, à laquelle on donnait l'appellation de furusiya, littéralement l'art de la cavalerie, elle ne commençait que lorsque l'esclave avait atteint l'âge adulte. Chaque groupe disposait à cet effet d'un maître d'armes désigné comme mualim. Les exercices comprenaient 4 grands domaines: l'équitation d'abord, apprendre à monter à cheval, et on commençait par faire monter aux jeunes gens de faux chevaux en céramique, en bois ou en pierre, avant de passer à des vrais chevaux, des chevaux vivants. On leur apprenait également à jeter la lance, à manier l'arc et enfin à pratiquer l'escrime. Un autre auteur, Ibn Qayyim al-Jawziya, auteur du mort en 1356, estimait qu'un mamelouk qui avait atteint la maîtrise de ces 4 grandes disciplines que j'ai énumérées pouvait être considéré comme un faris, un cavalier accompli. La discipline qui régnait était, comme vous pouvez vous en douter, très sévère, au moins à l'apogée du sultanat mamelouk. Nous savons ainsi que sous le sultan Halil ibn Kalaoun, à la fin du XIIIe siècle, il était interdit à tout jeune mamelouk de passer la nuit hors de la tabaka, hors de la caserne. Un peu plus tard, un autre sultan, Muhammad al-Nasir, les autorisera à fréquenter à tour de rôle les bains publics du Caire, mais cette sortie, qui se produisait environ une fois par semaine, devait se faire accompagnée par des surveillants, et le retour à la tabaka devait avoir lieu avant la fin du jour. Les élèves étaient encadrés et surveillés non seulement par ces fakis, ces fukaha, ces maîtres religieux dont j'ai parlé, et par les mualim, mais également par des camarades plus âgés, des sortes de tuteurs auxquels on donnait le nom d'aga. Et enfin, ils étaient surveillés par des eunuques redoutables qu'on appelait tawashi. Ces derniers étaient notamment chargés de réprimer des pratiques que nous appellerions pédérastiques, si vous voulez, ou plus largement homosexuelles, pratiques qui, comme on peut s'en douter, ne demandaient qu'à se donner libre cours. Toute tabaka comprenait ainsi un groupe d'eunuques et l'ensemble des tibaks était coiffé par une sorte de grand eunuque, un mukaddam al-mamalik. C'était son titre dans la hiérarchie mamelouk. En outre, l'ensemble des mamelouks royaux avaient à leur tête un chef du corps des mamelouks auquel on donnait le nom de Ras Naobat An-Nuwab. Toutefois, ce système ne se maintient pas dans sa rigueur et sa pureté tout au long de la longue histoire mamelouk. Comme ce sera le cas avec les janissaires, le parallèle est tout à fait frappant, le système se corrompt avec le temps, les déviations par rapport à la règle se multiplient. Et il apparaît que dans la dernière période mamelouk, les sultans cessent de n'acheter que de jeunes esclaves du dehors, extérieurs à leur empire. Ils achètent des esclaves déjà adultes et qui ont déjà été formés par un métier autre que celui des armes, par exemple des matelots, des boulangers, etc. Donc, évidemment, ce n'est plus la même chose. Autre infraction irrémédiablement corruptrice à la règle, ils ne sont plus obligés de vivre à demeure dans les tibaks. Ils sont autorisés à vivre en ville et à épouser des femmes étrangères. C'est Al-Makrizi encore qui signale ces facteurs de corruption qui, je le répète, font tout à fait penser à ce qu'on constate, ce qu'on constatera quelque temps après dans le cas des janissaires ottomans. Mais je dois achever la description du cycle de formation des mamelouks alors que le système est encore dans toute sa pureté. Tant qu'il est encore à l'école, qu'il n'est, comme on dit, qu'un kutabiya, un écolier, le jeune mamelouk ne reçoit pas de paye. Il n'est pas payé, sauf dans des cas exceptionnels où des sortes de pensions alimentaires appelées nafaka sont distribuées au kutabiya. Sinon, il ne possède rien en propre, pas d'armes, pas d'équipement d'aucune sorte, pas de prébende d'aucune nature. En revanche, arrivé à la fin de son cycle d'études, le mamelouk reçoit un cheval, un uniforme, des armes, c'est-à-dire un arc, un carquois et des flèches, un sabre et enfin une armure. Il devient un soldat, c'est-à-dire qu'il reçoit une solde, mais ce n'est encore, dans cette première étape, qu'un soldat sans grade. D'autre part, il reçoit, à la fin de son cycle d'études, un document appelé Ithaca. C'est un certificat de fin d'études, une sorte de baccalauréat, si vous voulez, témoignant en l'occurrence du fait que l'impétrant est un soldat entraîné, formé. Mais cet Ithaca, ce que n'est pas le baccalauréat, est également un certificat d'affranchissement. Il cesse, à partir du moment où il a achevé ses études, d'être un esclave. Il devient un affranchi. Et c'est très net chez les Mamelouks, alors que, comme nous aurons l'occasion de le constater, c'est infiniment plus flou dans le cas des coules du sultan ottoman. Le Mamelouk, qui entre dans la vie militaire active, a cessé d'être un esclave. On ne sait pas précisément combien de temps il a passé à l'école et quel âge il peut avoir au moment de sa sortie. Et il est vraisemblable que cela a varié selon les époques. En tout état de cause, au moment de son affranchissement, le Mamelouk est un adulte ayant atteint sa pleine maturité. Par ailleurs, il pouvait arriver que lors de l'achat, le sultan sélectionna quelques mamelouks qui n'iraient pas dans les écoles, mais qu'il ferait éduquer au palais même, auprès de lui, avec ses propres enfants. Parfois, le sultan allait même jusqu'à adopter certains de ces mamelouks mis à part. Il faut souligner qu'en principe, et ça c'est évidemment un point très important, un fils de mamelouk ne pouvait pas être mamelouk. Mais ce principe, selon toute apparence, était assez souvent violé dans les faits. Pour revenir aux affranchissements de fin d'études, il ne se faisait pas individuellement, mais collectivement, par groupes assez importants. Chacun de ces mamelouks devenait un affranchi, et on trouve, pour désigner cette notion, les termes de Attique, pluriel Outaka, et également de Matouk, pluriel Maatik. Seulement, comme je l'ai déjà signalé en décrivant le statut légal de l'esclave en général, un lien de dépendance subsiste entre l'affranchi et son ancien maître auquel on donne, dans le contexte mamelouk, le nom d'oustaz. Le mamelouk gardera toute sa vie respect, fidélité, obéissance vis-à-vis de son oustaz. Ainsi, on ne comprendra le fonctionnement social et politique des mamelouks qu'en tenant compte de cette grande famille de substitution qui ressort de leurs années d'apprentissage. L'oustaz qui les a acquis et affranchis est un père de substitution. Là, le tuteur plus âgé qu'ils ont eu dans leurs études restera un frère aîné. Leur compagnon d'esclavage et d'affranchissement, auquel on donne l'appellation de Khouchdash, resteront leurs frères à la vie et à la mort. Des réseaux de solidarité sont ainsi tissés qui prennent la place des liens du sang pour structurer cette partie bien distincte, cette partie à part de la société égypto-syrienne. Le régime mamelouk, à son apogée, à travers le cas des mamelouks royaux, a poussé à une sorte de perfection, le paradigme mamelouk. Que va-t-il en être avec les Ottomans ? Abordons donc à présent la question de la transmission de cette lourde tradition de l'esclavage militaire islamique et du paradigme mamelouk dans l'Empire ottoman. De quelle manière cette transmission s'est-elle faite et pourquoi ? Quelle forme le système y a-t-il revêtu ? Quelle place spécifique a-t-il pris dans l'ensemble du dispositif militaire extrêmement complexe des Ottomans ? Quel rôle propre y a-t-il joué ? Voilà un certain nombre de questions auxquelles je vais être amené à tenter de donner une réponse. À lire l'évocation des premières opérations militaires du Beylik. Beylik, c'est un terme turc, on trouvera aussi l'équivalent arabe, le terme de d'émirat, c'est-à-dire la petite principauté qu'est au départ l'État ottoman. Eh bien, les premières opérations militaires du Beylik naissant des Ottomans, sous les règnes des deux premiers beys de la dynastie Osman, qui donne son nom à la dynastie ottomane, et son fils Orhan, eh bien, l'évocation de leurs premières opérations militaires, telles qu'elles sont décrites par les anciens chroniqueurs, nous laisse penser que ces deux premiers beys ottomans jouissent d'un outil militaire qui n'est certes pas sans efficacité, qui va leur permettre les premiers progrès de leur principauté et qui va aussi leur apporter les premiers butins qu'ils récolteront. Mais malgré tout, cet outil militaire, manifestement, reste primitif et limité. On a affaire à des archers à cheval, légers, remarquablement rapides, qui excellent dans les attaques surprises, dans les embûches, qui savent pallier leurs faiblesses par des replis stratégiques, utilisant habilement les accidents du terrain. Bref, on a affaire, selon toute apparence, à une armée bonne pour effectuer des raids, mais beaucoup moins performante pour des sièges ou des batailles rangées. Les villes prises, les premières villes prises par ces beys ottomans, le sont à la suite de raids répétés sur les campagnes environnantes, sur l'arrière-pays, qui amènent, mais au bout d'un temps qui peut être long, la ville en question à être privée de toute alimentation et qui la condamne à se rendre en raison de la famine. Voilà comment sont conquises les premières villes prises par les Ottomans. Visitant les États d'Oran, donc le second des Ottomans, vers 1331, un voyageur que j'ai déjà cité, le Marocain Ibn Battuta, rapporte que le père d'Oran, c'est-à-dire Osman, assiégea la ville d'Iznik, l'ancienne Nicée, pendant environ 20 ans, et qu'il y mourut avant de la prendre. Quant au fils d'Oran, il aura encore à faire le siège d'Iznik pendant 12 ans avant que la ville ne capitule. Apposer une étiquette sur l'origine de cette première armée ottomane, c'est entrer, qu'on le veuille ou non, dans un débat sur la nature de l'État ottoman primitif. Débat qui opposait, dans les années 30 du XXe siècle, un historien turc de tendance nationaliste. Fuat Köprülü, illustre historien turc, a un compétiteur d'envergure également, un Autrichien cette fois, qui s'établira finalement à Londres, Paul Vitek. Eh bien, dans ce débat entre Fuat Köprülü et Paul Vitek, le premier défendait une thèse que l'on qualifiera d'ethniciste ou de tribaliste, voyant dans Osman et Orhan des chefs tribaux commandant à des guerriers unis par le sang et par des ancêtres communs, en somme, les guerriers appartenant à une seule et même tribu. C'était, par conséquent, voir dans les forces entourant ces deux premiers beys ottomans une armée tribale turkmène. Un très illustre historien turc, dont je me réclame bien souvent, Halil İnalcık, reste dans cette perspective quand il présente Osman, dans un de ses articles importants sur les débuts de l'État ottoman, comme, je cite, « a chieftain of semi-nomadic Turkomans fighting on the frontier ». Donc, vous voyez une unité ethnique de la première armée ottomane, le bey n'étant qu'un chef guerrier que le chef guerrier de cette tribu. L'idée de Paul Vitek, au contraire, était qu'Osman et Orhan avaient été, on dirait aujourd'hui, des leaders charismatiques, rassemblant à leur suite des communautés guerrières diverses, ethniquement hétérogènes, mais soudées cependant, dans la thèse de Vitek, par un même idéal religieux, celui de la guerre sainte contre l'infidèle, celui de ce qu'on appelle dans le turc de cette époque, le mot est arabe bien entendu, la Gaza, la guerre sainte. Ce second aspect de la thèse de Vitek, l'idée que le ciment de ces éléments ethniquement hétérogènes aurait été l'idéal de la guerre sainte, l'idéal du gazi, du combattant de la guerre sainte, a été à son tour fortement combattu et ne cesse pas de l'être aujourd'hui parmi les spécialistes des débuts de l'Empire ottoman. En revanche, la notion d'hétérogénéité des premières forces ottomanes s'est imposée et a même été poussée plus loin dans des travaux récents que Vitek ne l'avait fait, puisqu'on a envisagé une hétérogénéité non seulement ethnique, mais religieuse, ce qui cadrait mal, évidemment, avec l'idée de l'idéal de la guerre sainte comme ciment de ses éléments épars. Selon cette dernière thèse, des éléments hétérogènes ont dû rallier progressivement Osman, leader charismatique, des éléments turkmènes divers provenant d'autres beyliks anatoliens voisins, ceci étant d'autant plus vraisemblable qu'il y a des décalages chronologiques entre ces différents beyliks et que tous n'ont pas été dans une phase active d'expansion au même moment. Donc, des Turkmènes venant d'autres beyliks, d'autre part, des Mongols, des Tatars qui se trouvaient présents dans l'Anatolie de l'époque, et enfin, ce qui va à l'encontre d'une vision manichéenne des événements, il y aurait eu dans ces premières composantes de l'armée ottomane des éléments chrétiens ralliés. Un exemple fameux est celui d'un personnage appelé que c'est Michal, c'est-à-dire Michel le glabre, ou l'imberbe, n'est-ce pas, seigneur d'une petite localité appelée Harmankaya. Eh bien, ce personnage, chrétien au départ, aurait été un compagnon d'Osman dans les raids menés par ce dernier, et il ne se serait converti à l'islam que plus tard. Ce personnage est à l'origine d'une dynastie qui va durer très longtemps de chefs de raideurs, ce qu'on appelle en turc les Akıncı. J'aurai d'ailleurs l'occasion de revenir sur cette composante des forces ottomanes. Eh bien, donc, Kösé Mihal est à l'origine de la dynastie des Mihal Oğulları, des fils de Michel, qui joueront un très grand rôle dans la conquête ottomane de l'Europe orientale. Alors, je sais bien que l'historicité de ce que c'est Mihal a été mise en doute par l'hypercriticisme de certains collègues, et en particulier d'un collègue britannique éminent, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration au demeurant, qui s'appelle Colin Imber. Mais son doute cartésien ou son hypercriticisme confine quelquefois, me semble-t-il, à un goût, très british d'ailleurs, du paradoxe. Un autre compagnon des premiers Ottomans, également à l'origine d'une dynastie célèbre et très durable de chefs d'Akıncı, qui s'établira en Macédoine, Evrenos Bey, était lui aussi très vraisemblablement chrétien au départ. L'origine de son nom, à consonance grecque, ou du moins s'agirait-il d'un nom hellénisé, l'origine de ce nom, Evrenos, reste très discutée. Claude Cahen avait opté, dans un article de l'Encyclopédie de l'Islam, à une origine balkanique de cet Evrenos, et il voyait dans son nom une forme hellénisée du toponyme Varna, n'est-ce pas, qui est un toponyme qui correspondant à un port bulgare important, ou bien Evren. Voilà ce qu'était la thèse de Claude Cahen, mais elle reste très hypothétique. Et plus récemment, un autre collègue de Princeton, Hislori, dans un ouvrage paru en 2003, The Nature of the Early Ottoman State, maintient l'origine chrétienne d'Evrenos, mais fait l'hypothèse qu'il aurait eu une ascendance non pas balkanique, mais catalane ou aragonaise. À l'appui de sa thèse, surprenante de prime abord, il rappelle que le père d'Evrenos, Issa Bey, Issa étant la forme arabe de Jésus, avait le sobriquet de Frengi, qui prendra ultérieurement la forme Prangi, c'est-à-dire le franc, terme appliqué au latin d'Europe occidentale. De même, dans sa démonstration, Hislori tire également parti d'une mention du chroniqueur byzantin Pachymère, selon laquelle un détachement de Catalans aurait rejoint les Ottomans en 1305. Quoi qu'il en soit, des origines difficiles, comme vous le voyez, à élucider et surtout à élucider de façon catégorique. Il est sûr que on a affaire à des bandes de raideurs et non pas à une armée unifiée, organisée et cohérente. Donc, premier aspect de cette armée ottomane initiale, mais il ne faut pas oublier qu'elle comprend également, cette armée ottomane initiale, un autre élément que signalera rétrospectivement le chroniqueur ottoman du XVe siècle, Aşık Paşazadeh. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de troupes personnelles d'Osman, dont les membres sont liés à lui, à Osman, à leur chef, par un lien d'homme à homme, autre que le lien clanique, que le lien tribal. Le chroniqueur, Aşık Paşazadeh, emploie pour désigner cette sorte de troupe dont il signale la présence auprès d'Osman, il emploie un vieux terme mongol, le terme de nœud-cœur. Le philologue Dörfer, dans son dictionnaire sur les éléments turcs et mongols en persan, définit ainsi ce terme d'origine mongole, encore une fois, de nœud-cœur. Compagnon, servant militaire, s'applique à la suite personnelle d'un souverain ou d'un chef de clan dans les États mongols gingiscanides ou dans les confédérations turkmènes. Et de fait, on le retrouvera dans cette grande confédération turkmène que j'ai déjà eu l'occasion de mentionner, la confédération des Akoyunlu, des gens du mouton blanc. Elle apparaît dans le contexte Akoyunlu, il apparaît ce terme dans le contexte Akoyunlu, sous la forme iranisée de Naokar et également sous la forme d'un synonyme turc cette fois, Inak. Ce sont des troupes entraînées et rémunérées par le Han Akoyunlu et qui se distinguent des contingents claniques qui forment par ailleurs le gros de son armée. Le nœud-cœur est lié à son chef par un lien distinct des liens du sang, mais qui n'en est pas moins un lien indestructible. L'un et l'autre, le chef et le nœud-cœur, sont des compagnons. Ils sont, dans la terminologie turque, des yoldaş ou des termes synonymes emeldeş. Dans la fameuse épopée médiévale turque de le livre de Dede Korkut, on voit, dans le style évidemment de la poésie épique, que chacun des beys qui sont mis en scène dans cette épopée a ses nœuds-cœurs et qu'il appelle ceci « mes 40 compagnons aux yeux pairs ». Les yeux pairs, comme nul ne l'ignore, sont des yeux dont la couleur est entre le vert et le bleu. Donc, le chef vante ses nœuds-cœurs, ses 40 compagnons aux yeux pairs. On a affaire à un phénomène socio-militaire qui est très anciennement attesté en Asie centrale, sans qu'il soit propre à l'Asie centrale. Peter Golden, que certains d'entre vous ont peut-être entendu au printemps dernier lorsqu'il a donné 4 conférences ici au Collège de France, Peter Golden a associé ces nœuds-cœurs mongols autre terme, aux chakars sogdiens de Transoxiane et également, ce qui vous surprendra peut-être, au comitatus germain mentionné par Tacite. En tout état de cause, nous ne sommes pas avec ces neukers, ces chakars, nous ne sommes pas dans l'esclavage militaire stricto sensu. Les neukers d'Osman ne doivent vraisemblablement pas être identifiés avec ces mamelouks ou ces goulams dont je vous ai parlé, même si l'usage ottoman ultérieur fera parfois du terme neuker un équivalent de goulam ou encore de holan, qui est une autre façon de désigner des jeunes garçons éventuellement esclaves. On notera cependant qu'un très savant auteur ottoman du XVIe siècle, Celalzadeh Mustafa, distingue à propos des troupes qui entourent le prince Mustafa, le fils de Soliman le Magnifique, ses coules d'une part, c'est-à-dire ses esclaves à proprement parler, et d'autre part ses neukers, c'est-à-dire, disons, traduisons par servants. Donc, il y a une nuance, selon toute vraisemblance, entre les deux notions. Eh bien, cette armée initiale du beylik ottoman, que je viens d'essayer de définir et dont j'ai indiqué les limites, plus une armée de raid qu'autre chose, cette armée initiale va rapidement se transformer. Sans doute dès le règne d'Orhan et en tout cas pendant le long règne de son fils et successeur, Mourad Ier, qui règne de 1360 à 1389, donc vous voyez, un règne de 39 ans, et qui restera dans l'histoire ottomane avec un surnom qui est aussi un titre et qui exprime bien l'importance, son importance historique, son importance dans l'évolution de l'État ottoman, le titre de Hudavendigar, terme d'origine persane, désignant le grand souverain, l'empereur, le grand souverain. On constate dans les faits cette évolution de l'armée ottomane. On va voir que désormais, les villes seront prises non plus seulement en affamant à petit feu et donc à long terme l'arrière-pays, mais en employant de véritables techniques de siège, des mines, des trébuchets, des tours et autres machines de siège. De même, de façon encore plus significative, les armées de Mourad Ier prennent désormais part à des batailles rangées, de grandes batailles, où ces généraux déploient leur savoir-faire tactique, comme lors de la bataille de Tchirmen, appelée encore bataille de la Maritsa contre deux princes serbes en 1371. Ou, autre exemple de ces grandes batailles rangées dans lesquelles l'armée ottomane que mène désormais l'armée ottomane, la célèbre bataille de Kosovo-Polje, du Champ des Merles, n'est-ce pas, dans le Kosovo, en 1389, bataille au cours de laquelle vont mourir à la fois le vieux sultan Mourad et, d'autre part, son adversaire, le prince serbe, le knez, Lazar Herbeljanovitch. Pour arriver à de tels résultats, pour expliquer cette évolution en quelques décennies, il a fallu que les Ottomans, dans la deuxième moitié du XIVe siècle, organisent, complètent, spécialisent leur armée. Et c'est dans ce travail, aux aspects très divers, comme nous le verrons, que l'élément servile va réapparaître. Je vous remercie.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.